Vous écoutez Radio Royan-Vercors sur 93 FM et nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants pour une émission spéciale en direct du lycée La Solée à Saint-Marcellin. Nous sommes au CDI du lycée et nous vous retrouvons dans quelques instants.
Quel est votre lien avec le Vercors ?
La moyenne montagne, c'est un territoire que je connais bien, j'y ai grandi. Donc c'est aussi un territoire dans lequel je me sens à l'aise. 1000-1500 mètres d'altitude, c'est quelque chose où je suis vraiment bien. C'est ma bonne place entre le ciel et la terre.
Être Vertaco en 2026 à l'heure du changement climatique.
Quel est votre parcours pour être arrivé quand même ici ? C'est quand même assez original.
Un projet sonore de la classe des premières en sciences économiques et sociales du lycée La Solée à Saint-Marcellin.
Comment vérifiez-vous vos informations, surtout dans un contexte de désinformation climatique ?
Enquête et portrait sonore sur le territoire du Vercors et ses habitants autour de la transition écologique.
On n'entend pas un arbre mourir, ça fait pas de bruit. Mais ça va à une vitesse prodigieuse.
Enfin, c'est un territoire passionnant, c'est presque, j'avais envie de dire, presque le meilleur, mais...
Pour finir, si le Vercors était un son, quel serait-il ?
Avec l'accompagnement de leur professeur Marie Seine, documentaliste, et Pierre-Michaël Fichet, professeur de SES.
Et l'appui de Radio Royan-Vercors.
Au revoir.
Merci à vous, c'était un chouette moment.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue donc sur les ondes de Radio Royan-Vercors où nous sommes actuellement en direct, donc je vous le disais il y a quelques instants, en direct pour une émission spéciale qui se déroule donc au lycée La Solée qui est à Saint-Marcellin. Donc nous sommes dans le CDI du lycée et c'est aujourd'hui l'aboutissement d'un projet scolaire d'éducation aux médias qui a été mené par une classe de première SES, donc avec leur professeur en SES Pierre-Michaël Fichet et leur professeur documentaliste Marie Seine, et comme vous l'entendiez, avec notre appui, l'appui de Radio Royan-Vercors. Le thème choisi cette année par la classe, c'était « Être Vertaco en 2026 à l'heure du changement climatique ». C'est donc le thème de cette émission, avec au programme des enquêtes et des portraits sonores donc sur le territoire du Vercors et sur ses habitants, ses habitantes, autour donc de cette question de la transition écologique. Donc aujourd'hui, je vous le disais, c'est l'aboutissement du projet donc, qui s'est déroulé sur toute cette année scolaire 2025-2026. Donc on s'est par exemple rendu, deux journalistes et deux animateurs et animatrices de Radio Royan-Vercors se sont rendus au lycée pour un atelier radio. Les élèves se sont déplacés également pour visiter notre studio à Saint-Jean-en-Royan. Et puis il y a eu une journée sur le terrain, donc dans un tiers-lieu qui s'appelle la Jolie Colo, qui se situe à Autran-Méaudre, pour interviewer de nombreux invités qui avaient été contactés par les élèves. Voilà, vous allez avoir plus de détails sur ces différentes étapes par la suite. Et donc, comme je vous le disais, ce vendredi 29 mai, nous vous proposons une émission spéciale en direct. Et on entre tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on va parler un peu plus en détail donc, de ce projet. Et c'est en compagnie de Lilou, Léane et Kaoutar.
Mardi 31 mars 2026. Après un court trajet en car, nous arrivons à Saint-Jean-en-Royan sur la place de l'église. Il est 8h30, le ciel est gris, la température glaciale. Nous entrons dans l'office du tourisme où se trouve le studio de Radio Royan. Toute l'équipe nous accueille chaleureusement dans cet endroit moderne et lumineux. Gaëlle, la technicienne, Anouchka et Patrice, les deux journalistes. C'est notre moment. Casque sur les oreilles, bien placé devant un micro, nous devons prendre la parole pour présenter notre projet d'éducation aux médias à la radio. Écoutons cet enregistrement.
Bonjour à vous, chers auditeurs. Nous sommes des élèves de première du lycée La Solée de Saint-Marcellin. Nous suivons cette année un enseignement de sciences économiques et sociales et cela nous permet de travailler avec nos professeurs, Madame Seine et Monsieur Fichet, sur un projet d'éducation aux médias qui s'intitule « Être Vertaco à l'heure du changement climatique ».
Pour cela, nous sommes accompagnés par deux journalistes de Radio Royan, Anouchka Colette et Patrice Gillemont, que nous remercions chaleureusement pour leur aide.
À travers ce projet, nous allons rencontrer des personnes qui vivent dans le Vercors et qui viennent d'horizons très différents. Le journaliste scientifique Yves Siama, l'ancien biathlète Loïs Haber qui a fondé l'hôtel éco-responsable Le Zécan, Christophe et Noël Cabrol qui ont créé l'atelier de cordonnerie de montagne La Cordeau d'en haut, le photographe Benjamin Bécher, le boulanger Michael Rivoire qui dirige les Pins du Vercors et sans oublier François Richard, sculpteur et membre de Vercors Citoyens.
Nous allons réaliser toutes ces interviews depuis la Jolie Colo à Autran-Méaudre que nous remercions pour avoir accepté de nous accueillir aujourd'hui.
Notre objectif est de donner la parole aux habitants du Vercors pour mieux comprendre comment le changement climatique transforme leur quotidien et leur activité professionnelle. Nous espérons que nous vous avons donné envie de suivre notre projet qui reviendra très bientôt sur les ondes de Radio Royan.
Restez bien à l'écoute.
Nous avons été agréablement surpris par cette expérience. Nous avons eu la chance de découvrir le studio ainsi que la salle de régie, ce qui nous a permis de mieux comprendre comment se déroule une émission de radio.
Grâce à l'aide de Patrice Gillemant, tout s'est très bien déroulé et cela a été une expérience très enrichissante. Une fois les casques sur les oreilles, nous étions complètement plongés dans l'univers de la radio. Nous avons commencé par nous entraîner avec des textes vocaux, puis Patrice nous a aidés à introduire et présenter notre projet. Cette expérience nous a permis de prendre confiance en nous et de dépasser notre timidité, notamment en échangeant avec des personnes que nous ne connaissions pas. Nous avons également assisté à l'interview du libraire. C'est Nino, Lily et Mélissa qui vous en parleront.
Merci donc à Lilou et Léane donc pour cette description du projet. Et on va maintenant accueillir Lily, Mélissa et Nino donc pour cette seconde partie.
Nous avons ensuite interviewé Davy Bernard, libraire à La Bouillotte. La Bouillotte, située à Saint-Jean-en-Royans, est une librairie indépendante au concept original. Elle combine plusieurs activités, librairie, salon de thé, café, jeux et boutique de jouets, ce qui en fait un lieu convivial où l'on peut lire, jouer et se détendre. On y trouve des livres pour tous les goûts, comme des romans, des BD ou encore des livres de jeunesse, ainsi que de nombreux jeux de société accessibles sur place. L'ambiance est chaleureuse et invite à passer du temps seul ou entre amis. Elle fonctionne en SCOP, c'est-à-dire une société coopérative et participative.
Écoutons maintenant Davy Bernard qui nous parle de son fonctionnement.
Votre librairie est une SCOP, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors une SCOP, c'est une société coopérative ouvrière de production dans laquelle les salariés sont aussi associés et ont des parts dans l'entreprise et chaque personne équivaut à une voix. Donc qu'importe le nombre de parts que les personnes possèdent, il y aura toujours une voix au vote important. Donc c'est un mode de fonctionnement beaucoup plus horizontal que les sociétés traditionnelles.
Ce qui nous a marqué, c'est que nous étions les premiers à passer au micro. Et c'était très stressant parce qu'on était impressionnés par le matériel d'enregistrement car ça faisait très professionnel. Et cette première interview rendait notre projet concret.
Une expérience nouvelle pour nous trois. Heureusement, Davy a tout de suite réussi à nous mettre à l'aise grâce à son accueil chaleureux et à sa bonne humeur. Il a pris le temps de nous écouter, de répondre à nos questions et a fait preuve de beaucoup de patience tout au long de l'interview.
Eh bien, merci à tous les trois donc, pour ce partage et le récit de cette expérience. Donc, les premiers enregistrements qui ont été réalisés au studio donc, de Radio Royan Vercors à Saint-Jean-en-Royans donc, par les élèves. Et avant de poursuivre cette émission, on vous propose tout de suite de faire une petite pause musicale avec The Mamas and the Papas, California Dreaming.
Such a winner's day.
de retour donc en direct du lycée La Solée à Saint-Marcellin. Nous vous proposons maintenant de plonger au cœur de notre sujet, être vertaco en 2026 à l'heure du changement climatique, en s'intéressant eh bien, tout d'abord à ce territoire si particulier qu'est le Vercors. Puisque donc, l'un des temps forts de ce projet, ça a été donc une journée sur le terrain au cœur du Vercors, à Autran-Méaudre plus précisément, où les élèves se sont rendus le 31 mars dernier. Et on écoute tout de suite Thomas et Noéline qui vont nous raconter donc, leur arrivée sur place.
Nous sommes arrivés à la jolie colo à Autran-Méaudre vers 10h30. Seulement quelques bâtisses parsemaient le site, seule trace humaine dans ce paysage idyllique préservé de l'humain. Dès la sortie du bus, un vent vif rendait le froid mordant. Certains avaient pris des manteaux épais, mais la plupart portaient des jeans, et l'un d'entre nous était même en short. Cependant, la blancheur impressionnante de la neige inspirait le calme et la paix. Les rayons du soleil s'ajoutaient à cette ambiance féerique, les sapins embellissaient les plaines, contrastant avec la neige tout juste fondante. Nous sentions comme dans une bulle, protégés du monde extérieur avec son propre écosystème.
La jolie colo se dresse devant nous. Une porte s'ouvre et nous voilà projetés dans le décor qui sera le nôtre pour toute la journée. Une grande salle toute noire avec une importante hauteur sous plafond, les murs tapissés de rideaux noirs au pied desquels sont alignées des chaises. Nous nous installons autour d'une grande table centrale qui nous permet d'accueillir nos invités.
Voilà donc pour l'arrivée sur les lieux à la jolie colo à Autran-Méaudre. Merci à tous les deux donc pour ce récit. Et on va maintenant s'intéresser à une interview qu'on a improvisée sur place ce jour-là. C'était l'interview de Perrine, qui est cofondatrice de la Jolie Colo. Et je dis bonjour à Laura et Romane pour ce récit.
À notre arrivée, c'est Perrine qui nous a accueillis à la Jolie Colo. Nous avons eu la chance de faire une interview improvisée de la cofondatrice de ce tiers-lieu. Pour mener cet entretien, nous avons été accompagnés par Anouchka Colette, qui nous a donné de précieux conseils pour que tout se passe bien. L'interview a débuté avec des questions sur son projet, pourquoi elle a voulu créer ce tiers-lieu et quel est son rôle dans cette aventure. Elle nous a expliqué qu'elle avait repris une ancienne colonie de vacances, autrefois destinée à faire découvrir le Vercors aux enfants, et qu'elle souhaitait aujourd'hui en faire un lieu d'accueil pour différents métiers.
Oui, et c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est la diversité des activités présentes sur place. Aujourd'hui, on y retrouve 11 métiers différents. Par exemple, un bûcheron, une artiste, des boulangers qui fabriquent le pain du Vercors, ou encore un photographe.
Et on va écouter tout de suite donc, un extrait de Perrine qui va nous présenter donc, ce lieu qui est la Jolie Colo.
Bonjour, bienvenue à la Jolie Colo. Alors ce lieu, en fait, on l'a créé, on est 6 personnes à avoir eu envie de transformer cette ancienne colonie de vacances en effet en un lieu de travail, d'habitation et un lieu associatif qui accueille une grande diversité d'activités. Et on l'a fait parce qu'on cherchait à installer nos logements et nos activités professionnelles sur le territoire du Vercors, dont certains d'entre nous sont originaires et on aime beaucoup ce territoire. Et on est donc tombé sur cette colo. On s'est dit, tiens, dans un lieu comme ça, on peut faire différentes choses, on peut faire cohabiter des usages. Et voilà, et aujourd'hui, on est 10 habitants dans ce lieu et une trentaine de personnes qui viennent travailler au quotidien ici. Alors moi, comme je le disais, je fais partie des fondateurs du lieu. Donc on a imaginé cet endroit, on a imaginé à partir de cette colo comment on pouvait transformer le bâtiment pour faire cohabiter tous ces gens dedans. Et puis au quotidien, je m'occupe de l'association qu'on a fondée, qui s'appelle aussi La Jolie Colo, et qui permet d'accueillir des gens comme vous aujourd'hui, ou bien des artistes en résidence, des gens qui viennent en stage, en formation, qui viennent pour des événements aussi, parce qu'on fait parfois des événements ouverts au public, avec des événements culturels, des spectacles, des concerts, etc. Donc c'est un lieu qui est ouvert, on essaye au maximum que un maximum de personnes puissent le fréquenter et l'utiliser. Le lieu a été acheté fin 2017, donc ça fait déjà 7 ou 8 ans qu'on est dans ce bâtiment. Alors aujourd'hui, il est complètement opérationnel, mais sur les premières années, on était dans un mélange entre des travaux, parce qu'il a fallu vraiment tout transformer, et puis les gens qui se sont installés progressivement. Donc ça fait pas 7 ans que tout le monde est là, mais ça s'est agrégé petit à petit au fil du temps.
Après nous avoir présenté son projet, Perrine nous a fait visiter une partie du bâtiment. Et là, on a été assez surprise. L'intérieur est très moderne, ce qui contraste beaucoup avec l'extérieur. Mais malgré cette modernité, le lieu garde une vraie identité. On retrouve l'âme de l'ancienne colonie à travers certains objets conservés, comme un tableau de craie ou même le nom du bâtiment.
Et il y a aussi des photos à l'entrée de chaque pièce qui montrent à quoi ressemblait le lieu avant les rénovations. Cela permet vraiment de se projeter et de comprendre son évolution. On a trouvé cet endroit très chaleureux et convivial, notamment grâce à la salle de repos. C'est un espace où les gens peuvent se retrouver, discuter ou simplement se détendre. On a vraiment ressenti une ambiance accueillante durant toute la visite.
Et puis, il ne faut pas oublier que cette interview n'était pas du tout prévue. On a dû improviser entièrement, ce qui n'était pas si simple. Il fallait écouter attentivement Perrine pour éviter de poser deux fois la même question, tout en réfléchissant rapidement à la suite de l'échange. Malgré tout, cette expérience a été très enrichissante. Elle nous a permis non seulement de découvrir l'histoire du lieu, mais aussi de mieux comprendre ce que représentait le travail d'interview à la radio.
Et oui, et Laura et Roman se sont très bien débrouillés lors de cette interview improvisée que vous pouvez écouter en intégralité d'ailleurs sur le site internet de Radio Royan, radioroyan.fr. Et on va poursuivre le récit de cette journée, donc du 31 mars à la Jolie Colo à Autran-Méaudre, avec Noéline et Thomas qu'on retrouve et qui sont rejoints par Léa.
Pour faire une pause entre les interviews, nous sommes partis nous balader autour de la Jolie Colo. Nous avons emprunté un chemin enneigé et légèrement vallonné qui serpentait au milieu des champs. Le craquement de la neige glacée sous nos pieds et le sifflement continu du vent ont créé une douce mélodie envoûtante qui donnait l'envie de rester dans le Vercors. Le sol blanc crissait sous nos pas, glissant par endroits, laissant entrevoir l'herbe verte et la terre du Vercors.
On pouvait se rendre compte et observer ce dont les intervenants nous avaient parlé durant les interviews du matin. Cette balade était amusante avec les boules de neige qu'on envoyait entre nous. On ne pensait qu'à rigoler et prendre du bon temps. On replongeait littéralement en enfance. Nous étions de si bonne humeur que nous avons littéralement chanté plusieurs de nos chansons préférées. En bref, l'atmosphère de cette promenade était joyeuse, malgré certaines difficultés à avancer dans la neige. Pour résumer, ce fut un moment vivifiant, d'évasion et de rigolade entre amis. On a pu découvrir la région d'une façon très concrète et réaliser à quel point cet endroit est exceptionnel. Ce moment nous a permis de passer du temps agréable avec nos camarades dans ce lieu captivant, hors du temps et de la civilisation. Un paysage magnifique qu'on n'est pas prêt d'oublier.
Nous ne sommes pas les seuls à avoir adoré découvrir le Vercors. Nos interviewés l'ont fait déjà bien avant nous. Écoutons par exemple ce qu'en pense Mickaël Rivoire, boulanger du Vercors qui a récemment emménagé.
Ah bah oui, en fait, moi je suis pas originaire du Vercors, mais ça y est, maintenant que je suis installé là, je sens que je suis tombé amoureux de l'endroit. J'ai l'impression que je vais plus en repartir là.
C'est vrai que c'est magnifique, surtout avec la neige et tout, ça fait vraiment des décors presque fantastiques, un peu imaginaires.
Benjamin Béchier, photographe professionnel et haut-savoyard de naissance, nous a aussi partagé son avis sur le Vercors où il s'est installé depuis plusieurs années.
Écoute, c'est, je pense, un mélange qui donne toute sa magie au plateau. Les rencontres que j'ai faites sont assez fortes et je trouve les gens ouverts au dialogue. Ils m'ont tous accueilli avec bienveillance et curiosité. J'aime les contradictions de ce plateau aussi, qui en fait n'est pas qu'un plateau, c'est d'abord un ensemble de deux montagnes. Hein. Tu sais que jusque assez récemment, le Vercors était considéré plutôt comme deux massifs de montagnes, quoi. D'un côté quatre montagnes et puis l'autre le côté plus au sud, autour de la réserve. Et tous ces replis, ces gorges, c'est sans fin en fait. Et à un moment, j'avais pour ambition d'en faire le tour et de voir une grande partie du plateau avant de sortir le livre. Mais en fait, il m'en manque plein. Donc j'aime bien aussi le fait de pouvoir s'y perdre indéfiniment. La moyenne montagne, c'est un territoire que je connais bien, j'y ai grandi. Donc c'est aussi un territoire dans lequel je me sens à l'aise. 1000, 1500 mètres d'altitude, c'est quelque chose où je suis vraiment bien. C'est ma bonne place entre le ciel et la terre.
Voyons enfin ce que pense Yves Siama, journaliste freelance, qui a fait de nombreux articles sur le parc régional et ses habitants.
Voilà, moi j'ai un profil plutôt scientifique et normalement la science c'est quelque chose de neutre et un peu dépassionné, mais moi je suis assez fasciné par le Vercors et admiratif presque, j'allais dire mystiquement, mais c'est trop fort, mais il y a quelque chose de vraiment majestueux, moi, qui m'impressionne dans le Vercors, en fait. Et quand j'y suis, quand je m'y promène, voilà, par exemple, je suis très impressionné par l'épaisseur du silence qu'on a dans certains endroits. Et puisqu'on est à la radio, je vous en parle d'autant plus volontiers. Je trouve que il y a une majesté des paysages visuels, mais il y a aussi des paysages sonores, en fait. C'est-à-dire que, voilà, il y a des moments où on entend le vent, on entend les arbres qui bougent, on entend des insectes, des oiseaux qui passent. Et en fait, si on fait le silence autour de soi, qu'on s'immobilise, qu'on s'immerge là-dedans, on a des sensations vraiment fortes, quoi. Enfin, moi, en tout cas. Donc, bon, moi, le Vercors, j'essaye de le comprendre. J'essaie de comprendre les gens qui y travaillent, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, etc. Mais... voilà, ça me fait un effet particulier, plus que ce que la raison supposerait, en fait.
Et pour terminer donc sur ce chapitre, on va écouter maintenant une pastille sonore, en fait, qui regroupe les différentes réponses des invités à cette question récurrente qui était posée par les élèves à la fin de chaque interview. Et si le Vercors était un son ?
Et pour finir, si le Vercors était un son, quel serait-il ?
Le hurlement du loup.
Si le Vercors était un son, quel serait-il pour vous ?
Le loup.
Le loup ?
Ouais. C'est, on a été dans les premiers à trouver des traces de loup sur le Vercors en 92. À l'époque, on nous avait traité un peu de fous, parce que le loup n'était plus du tout présent en France. Et en fait, on a réussi à retrouver ces traces, à les mouler et à refaire l'historique, en fait, de la présence de ce loup. Et maintenant que ce loup est vraiment installé et s'est complètement sédentarisé sur le massif, pour moi, il est un peu l'emblème de ce pays.
Ouais. Si le Vercors était un son, quel serait-il ?
C'est une très bonne question. Pour moi, ce serait le vent dans les arbres avec un arrière-plan de chants d'oiseaux. Pour moi, c'est vraiment au printemps, quand on se promène dans le Vercors et que vous avez les oiseaux qui sont arrivés, c'est comme si la forêt chantait. Moi, c'est des grandes émotions pour moi. Et j'espère que je pourrai continuer à les vivre et que d'autres les partageront pendant longtemps. Et j'espère aussi qu'il n'y aura pas trop de bruit de motos et d'avions qui cacheront ces sons-là.
Si le Vercors était un son, que serait-il, enfin ?
C'est ce que j'aime aussi, peut-être, c'est peut-être ce son-là, c'est peut-être le son des oiseaux sous la tente, un petit matin de printemps au mois de mai, je pense que c'est un beau son du Vercors par exemple.
Et si le Vercors était un son, que serait-il ?
Un son ?
Oui.
Ce serait le bruit du vent pour moi.
Si le Vercors était une odeur, qu'est-ce que ça serait ?
Ah, ça c'est une excellente question. Ah, je crois quand même que l'air frais a une odeur, hein. Moi, je dirais ça, l'air frais. On va dire, de façon un peu générique, l'air de la montagne, là.
Selon vous, si le Vercors était une image, qu'est-ce que ce serait ?
À titre personnel, mais je rejoins ça, beaucoup de gens, dans les écoutes, nous ont dit qu'ils voyaient le Vercors comme une île. Et c'est vrai que le plateau peut rapprocher, ça peut rappeler un environnement insulaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur le plateau, en général, on a du mal à descendre. Et puis, des fois, quand on y arrive, on veut y rester. Je le verrais un peu comme une île protégée, quoi, mais pas isolée.
Oui, et puis à travers l'ensemble des écoutes, il y a eu d'autres images. Il y a celle de la forteresse, mais qui est une forteresse où toutes les portes sont ouvertes et toutes les fenêtres aussi. C'est ça l'image aussi.
Forteresse aux fenêtres et aux portes ouvertes. Voilà une belle image donc pour terminer cette pastille qui regroupait, donc je le disais, les réponses de nos invités à la question « Et si le Vercors était un son ou une image ?» Donc, nous allons vous proposer maintenant un focus, un zoom sur l'interview. D'ailleurs, ça tombe bien comme mot « zoom » puisqu'il s'agit d'un photographe. Donc, sur l'interview de Benjamin Bécher qui est photographe, et c'est Younous, Sabrina, Timéo et Mohan qui vont nous en parler.
Bonjour. Nous avons eu la chance d'interviewer Benjamin Bécher à la Jolie Colo. Il est photographe et il a publié un livre intitulé « Le Clan ». Il nous a parlé de la photographie et de ses méthodes, mais également du territoire du Vercors et de ses habitants. Donc maintenant, nous allons écouter un extrait de lui, du clan, pourquoi il l'a nommé comme ça.
Je cherchais un, une façon de parler de cette famille élargie, quoi, qui sont les habitants du plateau. Et ils sont drôles quand même. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, bon, forcément, des liens familiaux, des liens extra-familiaux rapprochés, c'est-à-dire des cousins. Bon, c'est encore la famille, mais on commence à s'en éloigner un petit peu. Et ensuite, il y a des familles qui se côtoient depuis très longtemps. Quand tu commences à te faire des copains un peu sur le plateau, tu vois qu'ils te racontent tout le temps des anecdotes les uns sur les autres. Et puis après, tu parles à, par exemple, un jeune éleveur qui est présent dans le livre, là, qui me parle de son chien et qui m'en parle comme d'un copain. Et après, tu parles à un naturaliste qui te parle des vautours, qui te parle des renards. Et pareil, qui en parle comme de gens qu'il a auprès de lui, quoi. Et donc, il est en train dans ma tête et dans le livre, en train d'exister une communauté d'êtres vivants, pas que des humains, qui se fréquentent, qui ont des liens ensemble de subordination, d'amitié. Et la forme clanique, finalement, c'était une façon de le représenter. C'est notre famille, en fait, le clan. C'est un groupe de personnes qui vivent ensemble.
Pour nous, l'interview de Benjamin était la plus marquante de toutes et de loin. Ce qui nous a vraiment frappé, la façon dont il nous a parlé de différents sujets, avec beaucoup de passion et de sincérité.
Et bien qu'il gravitait autour du Trièves, le plateau du Vercors lui-même restait un territoire à découvrir. Et son livre est une recherche de réalisme pur du Vercors. Il perçoit des liens familiaux et extra-familiaux très forts entre les habitants. Toutes les personnes qu'il rencontre deviennent importantes à ses yeux.
Sa vision du clan dépasse les humains. Il y inclut les éleveurs, les naturalistes, mais aussi les animaux, chiens de berger, vautours, renards. Pour lui, nous faisons tous partie d'un clan, qui nous relie par la vie, mais surtout par le Vercors.
Il utilise le noir et blanc pour mentaliser sa perception, s'extraire de la saisonnalité et quitter l'imagerie touristique pour aller vers quelque chose de plus profond. Ce qui est surtout marquant, c'est qu'il ne cherche pas forcément une esthétique colorée, mais se raccroche à d'anciennes techniques de photographie, comme la photo argentique. Nous allons donc écouter un extrait où il nous parle de sa manière de photographier.
Pourquoi ce choix du noir et blanc pour représenter le Vercors ?
Alors écoute, j'ai fait beaucoup de couleurs dans ma vie. Le noir et blanc, quelque chose que je porte en moi quand même. Quand on commence la photo, on commence en noir et blanc, forcément, parce qu'on a le petit labo et c'est plus simple. La couleur, ça coûte trop cher. Je savais que j'allais photographier pas mal le milieu naturel. J'avais envie de m'absoudre des couleurs pour plusieurs raisons, pour pas trop qu'on voit la saisonnalité, pour quitter le monde touristique et aller vers quelque chose de plus profond, plus mental. Le noir et blanc a cette faculté, si tu veux, de mentaliser la perception qu'on a du monde, je trouve. Donc là, c'était pour moi le bon support. Ensuite, c'était moins cher. Je peux le faire développer pas cher ou le développer moi-même. C'est facile à scanner. Et j'avais envie de me remettre en noir et blanc.
En photographiant des animaux morts, il sert surtout à rendre compte de ce que le randonneur ou le forestier croise réellement dans la nature brute. Il ne cherche donc pas à cacher ou voiler la réalité sur la mort, mais à rappeler que notre temps de vie est éphémère.
Il a aussi inscrit son travail dans une démarche d'hommage à ceux qui vivent avec et pour le milieu naturel, comme en témoignent les photos dans son livre Le Clan. Pour finir, le photographe Benjamin Bécher nous a ouvert les yeux sur son travail et sa vision du Vercors.
Ce focus sur l'interview donc, du photographe Benjamin Bécher, donc, qui nous était proposé par Younous, Sabrina, Timéo et Mohan. Merci à tous les quatre. Et puis vivre sur le territoire du Vercors, c'est aussi pour certains s'y impliquer en tant que citoyens. On va écouter tout de suite François Richard et Henri Torres, qui sont membres de l'association Vercors Citoyens, sur ce thème donc, de l'engagement citoyen.
Alors c'est un collectif, hein, c'est une association, c'est un collectif d'habitants qui s'est créé en 2022 à Villard-de-Lans. À l'époque, en réaction à certains projets immobiliers dont on n'est pas là pour parler aujourd'hui, mais en fait, ce collectif s'est créé parce qu'en fait, on voyait arriver des projets structurants sur le territoire qui étaient annoncés ailleurs que sur le territoire et sans que les habitants aient été consultés ou même informés. Donc ce collectif, l'idée de ce collectif qui s'appelle Vercors Citoyens, c'est d'informer et de rassembler les habitants et de réfléchir ensemble à comment faire évoluer le territoire pour qu'on s'y sente bien aujourd'hui et surtout demain, quoi. La mission du collectif, c'est de faire qu'on vive encore mieux que ce qu'on vit aujourd'hui là-dessus et qu'on ne perde pas certaines valeurs.
Pour compléter ce que dit François, ce qui est important aussi de savoir, c'est que nous sommes une association apartisane, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de politique. En fait, on est là aussi pour les accompagner, on est aussi force de proposition. La force de notre collectif, c'est un rassemblement de personnes pour qui le territoire doit avoir du sens. C'est-à-dire que de participer en fait à la vie quotidienne, et puis faire en sorte que ce qui concerne l'ensemble des projets structurants de notre territoire, on y soit associé. Mais on y soit associé de façon permanente, et en même temps que nous soyons habitantes et habitants, force de proposition. On a étudié pas mal de cas récemment sur Villard-de-Lans, mais au-delà du Villard-de-Lans, c'est l'ensemble du territoire qui est concerné. Et Vercors Citoyen, donc, comme disait François, date de sa création de 2022. Et en 2024, nous avons donc créé les écoutes citoyennes sur trois territoires, donc les quatre montagnes, le Vercors central et puis le Royan. Il en est sorti effectivement pas mal d'idées et puis pas mal de choses concernant l'habitabilité. C'est donc à ce niveau-là que nous sommes force de proposition auprès des élus.
Vous écoutiez donc François Richard et Henri Torres qui sont membres de l'association Vercors Citoyen et qui nous parlaient donc de ce thème de l'engagement. Et on va poursuivre tout de suite sur le même thème, mais cette fois-ci en s'intéressant à l'interview d'un des invités que les élèves ont pu contacter. Il s'appelle Loïs Haber et c'est un ancien biathlète qui est installé dans le Vercors. On retrouve tout de suite Lou et Lucas pour le récit de cette rencontre.
En effet, nous avons eu la chance d'interviewer Loïs Haber en visio. C'est un ancien biathlète français né en 1983 à Valence. Il a évolué au plus haut niveau international entre 2003 et 2012, avec plus de 100 départs en Coupe du Monde. Son meilleur résultat est un podium en relais à Hochfilzen lors de la saison 2010-2011 aux côtés de Martin Fourcade et de l'équipe de France.
Après sa carrière sportive, il est devenu entraîneur de biathlon dans le comité du Dauphiné et consultant pour Eurosport ou International. Avec son épouse Marie Dorin Haber, multiple médailles olympiques et championne du monde de biathlon, ils ont mis un point d'arrêt à leur carrière sportive pour créer un hôtel à Corançon qu'ils ont nommé The Camp. Dans cet hôtel-restaurant à valeur sportive ajoutée, il propose des activités sportives de pleine nature.
Loïs Haber a été longuement engagé pour défendre l'avenir du Vercors en tant que coprésident de Vercors Citoyen. Cette association défend un développement plus durable de la montagne face aux grands projets touristiques et immobiliers. Loïs Haber nous a expliqué l'évolution du projet Tony Parker contre lequel Vercors Citoyen s'est battu. Écoutons-le.
Au vu de l'évolution du projet Tony Parker, quelle orientation donner, selon vous, à l'aménagement touristique de Villard-de-Lans?
En fait, c'est le projet Parker, comme on l'appelle. Il a été retoqué par le préfet, suite à la mobilisation de citoyens et surtout à un dossier plutôt défaillant sur plein de sujets, quoi. Donc voilà, le projet a été retoqué par le préfet, mais ils ont quand même le projet de reproposer autre chose, plus petit, qui passe justement dans les demandes du préfet. Moi, mon avis, c'est toujours le même, c'est qu'il n'y a pas de concertation, c'est à mon avis pas un projet intéressant pour le territoire, dans le sens où il est trop grand, qui s'appuie uniquement sur du ski alpin, dont les jours sont plus que comptés, et j'en suis le premier malheureux, il n'y a pas un jour dans l'hiver où je ne suis pas sur les skis avec ma famille, pour travailler ou pour moi en perso. Donc je fais partie de ceux qui skieront jusqu'à ce qu'il reste un bout de neige quelque part. Mais à un moment, il faut savoir orienter le tourisme vers autre chose, vers quelque chose de plus respectueux de la montagne, moins carboné, moins véhiculé, plus en lien avec les subtilités qu'on peut avoir ici, donc c'est-à-dire moins artificiel. On peut faire beaucoup de choses sans artificialiser la montagne. Et c'est pas du tout l'essence même de ce projet qui propose de l'indoor et du ski alpin.
Comment voyez-vous le Vercors donc dans 10-20 ans?
Comme j'aimerais le voir, j'aimerais que ça devienne une terre de d'innovation sur la transition. Et qu'on ose jouer, qu'on ose protéger des zones aussi à destination de la faune, de la flore, qu'on continue de protéger cette réserve qui est magnifique. Et qu'on sache faire du tourisme décarboné le plus possible, Donc en privilégiant tous les modes de déplacement doux, faire venir des touristes, mais d'une autre manière, et qu'une fois sur place, on sache leur montrer la vraie beauté du Vercors. Et la vraie beauté du Vercors, pour moi, c'est la beauté plutôt naturelle.
C'était donc la vision de Loïs Haber, ancien biathlète installé dans le Vercors, sa vision de l'avenir de ce territoire du Vercors. Et avant de poursuivre cette émission, on vous propose tout de suite de faire une petite pause musicale avec un autre titre qui a été sélectionné par les élèves. Il s'agit d'un monde nouveau de Feu Chatterton. On écoute.
Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Qui nous foutait la frousse, plein les poils en même temps. La clarté nous pendait au nez dans sa vive lumière bleue. Nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
S'attraper dans les bras, s'attraper dans les bras.